Bonjour à toutes et à tous. Dans le mag aujourd'hui, le rural redéfini. On en discutera avec une chef de la division territoire de l'INSEE Occitanie qui sort une étude sur la place du rural dans notre région. Mais le mag, pour commencer après Bini et Super Lonely pour la musique, ce sera avec le délégué sud de l'usine Bosch et les dernières infos sur le futur de l'usine. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles.
Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Water pouring down from the ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl. This big world, it's a mad world. All of my friends, though it's heaven, you're a bad thing. I know I fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Crying, think I'm slowly sinking. Bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing.
CFM Rodez, le mag.
Bonjour Cédric Beldan.
Bonjour.
Cédric, vous êtes délégué du syndicat sud de l'usine Bosch de Rodez. Hein. Je le rappelle, on est d'accord.
Tout à fait.
Et on est ensemble. Bah, on suit évidemment l'actualité de l'usine Bosch à Rodez. Avec une réunion qui était proposée par la direction aux délégués syndicaux jeudi dernier. C'était quoi l'objectif de cette réunion de la direction ?
L'objectif, c'était d'amener des informations sur sur le volet industriel pour les années futures.
Ah, alors donc vous avez eu des informations ?
On a eu quelques petites informations, particulièrement sur les projets insourcing, donc c'est des projets pour réinternaliser des pièces sur le site. Et ça, c'est des projets pour le court terme. Et donc, pour le moment, ils ont identifié 6 pistes. Et il y en a 2 qui sont hâtées avec des investissements à la clé de 2 millions d'euros pour dès l'année prochaine et qui, aujourd'hui, correspondraient à peu près à une douzaine d'emplois identifiés dès fin 2022.
Alors, quand vous dites réinternaliser, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'est des pièces qui sont faites chez d'autres fournisseurs et que Bosch souhaite réinternaliser dans le groupe.
Plutôt une bonne nouvelle ou c'était attendu ?
Ben, c'est des pistes qui ont été évoquées depuis quelques temps, mais au jour d'aujourd'hui, c'est important pour le court terme. C'est ce qui va nous permettre aussi d'atteindre 2025 et de combler un peu les pertes d'emplois qu'on aura début 2023, quand on aura une ligne de production d'injecteurs qui cessera sur le site.
Cette annonce, elle change quelque chose au plan de réduction d'emplois des prochains mois, des prochaines années ou non, malheureusement ?
De toute manière, il faut qu'on ait de nouveaux projets qui arrivent sur site. Et ces pistes d'insourcing sont une première étape. Il y a aussi des pistes dans la diversification. Et à l'horizon 2025, il y aura, comme la direction l'évoque, ce grand projet dans l'hydrogène.
Ouais, on va en parler justement de ce grand projet autour de l'hydrogène. Alors, suite à cette réunion avec la direction jeudi, vous, Cédric, enfin le syndicat Sud en tout cas, a pris acte et a fait des contre-propositions pour voir justement un petit peu à plus long terme que 2022-2023, c'est bien ça ?
Oui, de toute manière, nous, le syndicat Sud, c'est simple, hein, nous, on souhaite garantir une projection pour les salariés qui seront encore sur le site. Hein, et c'est pour cela que nous, sur cet accord qui va arriver, que la direction voit jusqu'à 2027, nous, on voit une pérennisation du site bien plus loin, puisque les projets hydrogène, on voit que ça va aller jusqu'en 2030. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que cet accord, pour les salariés, pour les 500, et on espère plus, et bien justement, ça aille dans ce sens, et qu'on aille au moins sur cette période de 2030.
Alors, si j'ai bien compris votre document, qui est un petit peu technique pour moi, hein, mais enfin, dans les grandes lignes, dans un premier temps, l'usine Bosch de Rodez, son avenir, c'est plus le diesel, c'est l'hydrogène, quoi.
Ben c'est effectivement, hein, enfin, maintenant il est temps pour nous, malheureusement, même si on sait que le diesel avait encore toute sa place, mais dans les années futures, le diesel pour Rodez, ça sera fini. Donc derrière, il faut trouver des nouveaux projets et on a une équipe qui travaille depuis un an et demi sur ce projet hydrogène, qui passe les étapes et qui devrait être industrialisé, pardon, à partir de 2025-2027 et on espère plus.
Avec à la clé, si on en croit la direction de Bosch, même des gros investissements hein, sur l'hydrogène, même pour Rodez d'ailleurs.
Oui, tout à fait. De toute manière, le groupe a annoncé qu'il voulait investir 1 milliard d'euros d'investissement dans l'hydrogène dans les années futures. Et Rodez, avec son projet, normalement, devrait en bénéficier aussi.
Ah bah ouais, ça serait dommage d'avoir fait le prototype et puis de pas avoir droit à la production en ligne.
Ah mais tout à fait, de toute manière sur ce projet-là, le site de Rodez est maison mère, donc voilà, c'est un atout pour le site pour développer ce produit et que ce produit reste bien industrialisé en Aveyron.
D'accord, là on parle d'hydrogène, pas encore pour les voitures, même s'il y en a quelques-unes qui circulent déjà à l'hydrogène, là ça serait pour les camions, c'est ça ?
Oui, tout à fait, c'est un projet pour les camions frigorifiques. Et puis après, on espère que quand on aura mis le pied dedans, pourquoi pas d'autres projets qui pourraient venir à côté dans cette technologie.
Donc en regardant votre document aussi, j'ai noté, parmi ce que vous annoncez, donc ce qui permettra notamment cette place plus très importante de l'hydrogène, ça permettra de enfin sortir du diesel. Ça veut dire que vous prenez acte, alors je ne sais plus si c'est Sud ou d'autres syndicats ou tous les syndicats, mais moi quand je vous appelle régulièrement depuis plusieurs mois, à chaque fois vous demandez à ce qu'on arrête avec le diesel bashing, que l'État, la critère machin soit pour les diesels, là bon vous prenez acte que bon de toute façon l'avenir c'est pas le diesel.
Bah, de toute manière, effectivement, hein, de toute manière, on le voit avec toutes les annonces des constructeurs. Si vous constatez toutes les publicités qui passent, on parle uniquement de véhicules électriques. Donc, malheureusement, le diesel va continuer à baisser et après arriver à une mort certaine. Vu les annonces des politiques et de l'Europe.
Alors le diesel va quand même continuer Un Rodez avec moins d'effectifs, mais là, le but, c'est de fabriquer de la pièce de rechange, quoi, finalement.
Oui, tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, Bosch pour Rodez se base sur des lignes de production en bougie avec cet effet de rechange. Et donc, on aura encore une partie diesel, mais uniquement sur les bougies de préchauffage pour les véhicules diesel.
Je reviens à ces annonces, hein, ces investissements, déjà à court terme, vous l'avez dit avec nous, et puis plus tard l'hydrogène. Vous avez le sentiment que on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais que les nouvelles sont meilleures après celles d'il y a, je sais plus, un mois ou deux, quand la direction a annoncé 500 emplois en 2025, donc moins 750 d'ici là.
Non, toujours aujourd'hui, de toute manière, on est toujours dans l'inquiétude parce que on n'a aucune garantie que ces projets vont arriver à créer autant de, enfin, à maintenir l'emploi pour ces 100 personnes. C'est des pistes, c'est encore en cours de développement. Mais voilà, mais aujourd'hui, l'inquiétude, elle est toujours là parce que il n'y a pas encore de garantie réelle. Sur l'après 2025-2027.
Alors ce dossier, l'usine Bosch à Rodez, il est suivi au plus haut sommet de l'État, on peut quasiment dire, hein, avec notamment la ministre de l'Industrie qui a mis en place des rendez-vous réguliers pour suivre un petit peu le dossier de près. C'est bien quand même, non ?
Ben, c'est bien, ils ont une grande part de responsabilité dans notre situation, donc l'État aussi se doit de veiller à ce que notre site continue à vivre, parce que voilà, toutes les annonces qu'ils ont fait par rapport au diesel, et ben nous, ils nous ont tué énormément d'emplois sur le site. C'est leur rôle.
D'accord. C'est quoi les prochaines étapes là que vous attendez, vous?
Courant mai, on va avoir encore des discussions sur le volet industriel. Et puis après, derrière, va commencer des discussions aussi sur les plans de pré-retraite et des ruptures conventionnelles pour justement pour que la direction arrive à 500 emplois à l'horizon 2025. Et donc là, c'est des négociations qui vont attaquer dans les prochaines semaines.
Rupture conventionnelle, départ en pré-retraite, parce que ce que vous avez obtenu a priori de la direction, c'est aucun licenciement sec. Ça, c'est bon.
Ouais, c'était la garantie première que les organisations syndicales souhaitaient. Au jour d'aujourd'hui, la direction a acté que si accord était signé, effectivement, dans celui-ci, il n'y aurait pas de licenciement sec et de départ contraint pour les salariés.
Tiens, un dernier mot, je reviens sur votre communiqué à l'adresse des salariés, là, un petit peu technique pour moi. Pour l'hydrogène, il est prévu 240, si je dis pas de bêtises, hein, 246 emplois liés à l'hydrogène à l'usine Bosch de Rodez pour 2027, 130 en 2025. Et combien, il y en a combien aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est une petite équipe, ouais, qui est à peu près peut-être d'une dizaine ou une quinzaine de personnes qui travaillent sur ces prototypes. Donc voilà, et au fur et à mesure que ça avance, et bien ce groupe va s'étoffer et pour arriver à ces 130 en 2025.
Voilà, puis 246 en 2027. Et là, ça ferait presque la moitié de l'usine Bosch de Rodez sur l'hydrogène, quoi.
Tout à fait. C'est pour ça que ce projet, il est hyper important. Et c'est pour ça que Sud, nous, on estime que Bosch voit un projet comme celui-ci arriver en 2027. Mais nous, on le voit arriver bien plus loin. Il faut que Bosch, en disant on souhaite pérenniser le site, et bien il faut qu'il nous donne plus de temps et que ce projet arrive vraiment à maturité à l'horizon 2030. Et ça va être notre combat pour les prochaines semaines.
Eh bien écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, que tout se passe bien et qu'on aille un petit peu de l'avant avec des choses positives pour l'usine Bosch de Rodez. Merci beaucoup Cédric Beldan.
Merci beaucoup.
À suivre dans le mag, le rural redéfini, un espace étendu qui gagne des habitants. C'est le titre d'une nouvelle étude de l'INSEE Occitanie, mais d'abord Travis sur CFM Rodez. You realize
that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no wrong, there is no right. This circle only has one side. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. But the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive.
CFM Rodez, le mag.
Catherine Lavaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la division territoire à l'INSEE Occitanie et nous sommes ensemble à l'occasion de la sortie, il y a peu, d'un document qui s'intitule « Le rural redéfini, un espace étendu qui gagne des habitants ». Alors première question, Catherine, ouais, vous avez redéfini le mot « rural ». Alors qu'est-ce qui a changé ?
Oui, alors c'est pas moi qui ai pris cette initiative, hein, vous comprenez bien. Donc c'est une nouvelle définition officielle nationale, hein, qui a été définie dans le cadre d'un groupe de travail pour faire consensus, parce qu'il y avait vraiment besoin de revenir à une vraie définition de rural, parce que le rural était plutôt défini en creux de l'urbain pour le moment. On essayait de définir l'urbain et on disait ben, tout le reste, au final, ça va être le rural. Alors que là, on comprend que les sujets de ruralité, etc., sont plus prégnants. Il y a des actions politiques qui sont en priorité sur ce type de territoire dit ruraux. Donc, il y avait vraiment besoin d'une vraie définition officielle du rural et qui ne soit pas en négatif de l'urbain, parce que le rural a une identité en tant que tel.
D'accord. Voilà. Alors, du coup, c'est quoi la nouvelle définition du rural ?
Alors, cette définition, elle se base sur la grille communale de densité. Ça, c'est une méthodologie européenne, hein, un petit peu compliquée. En fait, pour chaque commune, on la découpe en carreaux de 1 km carré. On regarde la concentration de la population sur ces carreaux. Ça permet de classer après les communes en 4 catégories, qui sont dites densément peuplées ou de densité intermédiaire ou peu dense ou très peu dense. Et en fait, les communes rurales, c'est celles qui sont peu dense ou très peu dense selon cette définition européenne.
Si jamais il me prenait l'envie de savoir si finalement je vis toujours en zone rurale ou pas, moi personnellement, David qui vit à Rodez en Aveyron, comment je sais ?
Ah ben vous pouvez déjà consulter notre publication sur le site de l'INSEE, puisque là vous aurez accès à une carte qui vous permet de voilà de voir comment est qualifiée votre commune, puisqu'on a des gradients de couleurs là pour voir urbain, rural, et puis il y a aussi plusieurs types d'espaces ruraux. Et vous avez également accès à des données plus fines en données complémentaires. Voilà.
D'accord. Ah oui, d'ailleurs, j'ai la carte sous les yeux là. Et regardant de très très près, je vois que Rodez est grisé. Et ça veut dire que c'est pas rural.
Voilà. Rodez est grisé. Bien sûr, c'est un espace urbain. Vous voyez que autour de Rodez, il y a du vert, mais plutôt clair. Ça veut dire qu'effectivement, dans l'espace rural, après, il y a plusieurs types d'espaces ruraux. On comprend bien qu'entre des espaces très éloignés, très isolés, et puis des espaces qui sont quand même plus proches et plus sous l'influence des villes, parce qu'on a beaucoup de résidents qui vont travailler dans les villes, c'est pas les mêmes types d'espaces. Donc il y avait besoin de qualifier plus finement ces espaces ruraux. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 catégories qui ont été faites, entre ceux qui sont sous influence d'un pôle, plus ou moins forte, et puis ceux qui sont hors influence d'un pôle, et peu densément ou très peu densément peuplé. Donc c'est voilà 4 catégories.
Du coup, le rural, avec cette nouvelle définition, il gagne du terrain ou il en perd sur les cartes?
Oui. Alors sur la carte, effectivement, le rural, c'est 92% des communes d'Occitanie, hein, donc c'est quand même un périmètre large. Pour l'Aveyron, c'est même 97% des communes. Mmh. Bon, alors après, bien sûr, en population, c'est moins, parce que les communes les plus habitées, bien sûr, c'est les communes urbaines. Mais donc, en population, 40% des habitants d'Occitanie qui sont dans le rural, et c'est 70% des habitants de l'Aveyron. Donc 7 habitants sur 10 de l'Aveyron est dans une commune qualifiée de rurale.
Et alors la région Occitanie par rapport aux autres régions françaises, elle est plus ou moins rurale que les autres ou dans la moyenne?
On est dans une situation à peu près médiane, hein, avec on peut appeler ça un taux de ruralité inférieur à celui qu'on observe dans d'autres régions, comme par exemple la Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, etc. Donc on est sur une position médiane.
Ce qu'on se rend compte aussi à travers cette étude de l'INSEE d'Occitanie, c'est que le rural, contrairement à ce qu'on a pu penser, il n'est pas forcément, même au contraire, en voie de désertification d'un point de vue humain, des habitants.
Oui. Alors effectivement. Alors après, il faut nuancer ce constat. Effectivement, à l'échelle globale du rural, ce qu'on voit, c'est que la dynamique démographique du rural, alors sur notre région, elle est de 0,7% par an, là, sur la période récente. Donc, c'est une dynamique qui est très proche de celle observée dans l'urbain, hein. Il y a même d'autres régions sur lesquelles c'est supérieur. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça dépend de quel type de rural. Quand on regarde un petit peu plus finement, ce qu'on voit, c'est que le rural qui démographiquement croît, c'est le rural qui est proche des villes. C'est celui qu'on appelle sous forte influence des pôles. Celui-ci, c'est le territoire qui augmente le plus. C'est là que la population augmente plus que dans les villes. C'est dans les couronnes, on peut dire, des villes que ça augmente. Par contre, dans les territoires plus éloignés, là, on est sur une dynamique beaucoup moins forte. Si on peut vous les des éléments à l'échelle de l'Aveyron. Bon, l'Aveyron, c'est un département qui est plus atone, hein, concernant l'évolution de sa démographie.
Alors atone, je traduis, ça veut dire que c'est pas le boom, c'est pas l'explosion démographique.
Non, ça loin de là. La population globalement, elle n'augmente guère, elle diminue guère. Hein. Oui. On est toujours sur une, c'est à peu près plat. Et ça, c'est vrai dans l'urbain comme dans le rural. On a à peu près les mêmes dynamiques dans l'Aveyron, dans l'urbain et dans le rural. Mais là aussi, ce qui se développe le plus au sein du rural, bah, c'est ce qui est en périphérie des villes.
Ouais, donc les gens, grosso modo, ils veulent bien habiter un petit peu à la campagne avec des espaces, mais enfin, tant que la ville est pas trop loin, quoi.
Vous le traduisez bien, effectivement, c'est ce qu'on appelle un phénomène de périurbanisation. Les gens ont envie d'un cadre de vie un peu à la campagne, mais ils n'ont pas forcément envie de s'éloigner trop des services et des emplois des villes.
Bien sûr. Et alors, ce dynamisme démographique, hein, quand même, en zone rurale, c'est plus des gens qui viennent de l'extérieur que des habitants sur place qui font plus d'enfants.
Oui, vous avez raison. Cette croissance démographique dans le rural, elle est portée par l'émigration. C'est vraiment le fait qu'il y a plus d'arrivées que de départs. C'est pour ça que la population augmente. Par contre, ce qu'on appelle le solde naturel, l'écart entre les naissances et les décès, il est en général déficitaire sur les campagnes ou dans le rural où la population est en général plus âgée.
Et donc, comme vous l'avez dit, la croissance démographique, elle existe dans les villes et dans les zones rurales tant que c'est pas trop loin d'une ville. Ça veut dire que ces habitants supplémentaires, au total, viennent de l'extérieur de la région?
Pas forcément. Alors, quand on parle des arrivées, c'est des arrivées des autres territoires. Donc, ça peut être les habitants de la ville qui viennent justement s'installer dans la campagne proche. Voilà.
Merci Catherine.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin du MAG pour aujourd'hui. Rendez-vous bien sûr demain même heure. Pour